Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast « Une alchimie de l'éveil ». Je suis Karagir et aujourd'hui, nous entamons un nouvel épisode de la série destinée à mieux comprendre le stress et lui faire la peau. Il va être désormais question aujourd'hui de pleine conscience. On en parle à toutes les sauces depuis plusieurs années, mais de quoi s'agit-il réellement? Et de façon très contextuelle, comment peut-on l'appliquer pour mieux vivre éloigné du stress? Une façon nouvelle de non seulement s'éloigner de cette boule que l'on a dans le ventre, mais en plus de changer profondément, littéralement, notre quotidien pour le meilleur. Et oui, cela fait des années que l'on parle de pleine conscience et de mindfulness. Comme si c'était une grande mode qui prend d'assaut le monde occidental. Mais est-ce aussi nouveau que ça? Eh bien non. Ça existe depuis des millénaires. C'est tout sauf nouveau. Les stoïciens, les épicuriens, le bouddhiste, même le taoïsme, les philosophes de la Grèce antique, les cultures ancestrales, oui, les cultures ancestrales dont aujourd'hui on commence même à questionner s'ils ne dataient pas de même plus que 10 000 ans à des niveaux relativement avancés. Mais tout ça, c'est une autre histoire que l'on pourra demander de raconter aux archéologues. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que la pleine conscience n'a rien de nouveau. Les modes vont et viennent, mais la pleine conscience existe depuis des millénaires. Je suis sûr que vous avez entendu parler du fameux « carpe diem » que l'on a trop souvent mal interprété comme quelque chose à l'âme voulant dire « brûlons la chandelle par les deux bouts, buvons, festoyons jusqu'à crever puisque no future » disaient les punks dans les années 80. Eh bien pas du tout. Le carpe diem, c'était pas du tout ça, c'était vivre pleinement l'instant présent. C'était la réponse à cette philosophie profonde incarnée par nos aïeux, déjà des millénaires, et qui sur deux mots disait « vivez l'instant présent ». Aujourd'hui, on l'utilise avec un seul, bon, mais on s'est amélioré, parce qu'aujourd'hui, on dit c'est « mindfulness ». On va faire un peu de « mindfulness ». Eh bien, c'est le carpe diem de l'époque. Bon, tout ça étant dit, il s'agit aujourd'hui du grand courant d'éveil personnel du début du 21e siècle. Il a remplacé la méditation transcendantale de l'époque des hippies, parce que tout en étant une pratique extraordinaire, la méditation transcendantale, avec toutes les dérives de l'époque hippie, ou pseudo-dérives, aujourd'hui on ne sait plus réellement ce qu'il en était vrai de ce qui n'était pas vrai, le fait est que la méditation transcendantale a été très vite classée dans les courant New Age, mais aussi dans les risques de courants sectaires et tous ces pataquès-là. Bon, séparer le vrai du faux, aujourd'hui, on ne pourra pas. Ce qui est sûr, c'est que la méditation transcendantale, qui a été le courant prédominant des années hippie, peace and love, aujourd'hui a cédé sa place à la pleine conscience, qui est donc devenu le courant, le grand courant d'éveil personnel du 21e siècle. Du début du 21e siècle, on va pas pousser 100 ans encore, on en est qu'au début. C'est un courant qui est de très forte inspiration bouddhiste aujourd'hui tel que nous l'apprenons, même si la façon de l'apprendre aujourd'hui, la mindfulness, est dénudée de toute philosophie ou dogme. Bon, à quoi doit-on cela? On doit cela à un monsieur appelé Jon Kabat-Zinn, qui est un docteur en biologie moléculaire du MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui, pendant des dizaines d'années, a fait pléthore d'études scientifiques qui ont donné tout son blason, redoré son blason à la méditation et qui ainsi a pénétré non seulement le monde des hôpitaux pour notamment la lutte contre les maladies chroniques, etc., etc., favoriser la récupération des malades, etc., etc., mais ensuite ça transcendait les hôpitaux pour aller dans le domaine du grand public, le thème qui nous touche aujourd'hui, la lutte contre le stress, et ceci faisant, le burn-out étant l'un des grands fléaux du monde de l'entreprise, eh bien, la pleine conscience a aussi intégré le monde de l'entreprise et a découvert que celle-ci apporte beaucoup plus de bonnes choses que juste lutter contre le stress. Donc maintenant, cette introduction ayant été faite, qu'allons-nous découvrir dans cet épisode? Nous allons tout d'abord nous intéresser au stress et à la pleine conscience. Ensuite, comment cultiver l'instant présent nous permet de dépasser le stress. Ainsi, nous aurons découvert la pleine conscience et les avantages de la pleine conscience pour ensuite aller un peu plus loin, si vous en avez envie, avec les recommandations concrètes et pratiques que vous aurez à la fin de cet épisode. Ceci en soulignant, attention, à certains pièges dans lesquels vous pourriez tomber. Et oui, la mode étant toujours des phénomènes éphémères, ils attirent du bon et parfois du moins bon. Il faudra savoir faire la part des choses, même si la pleine conscience en tant que telle est une pratique extraordinaire, quoi qu'il en soit. Et bonus de parmi les bonus, je vais à la fin vous parler de deux personnes qui ont vraiment profondément influencé mon parcours de découverte et de la méditation et de la pleine conscience. Des personnes que l'on a beaucoup, 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 beaucoup de difficultés à trouver de par ce monde, de la méditation, de la vie de conscience, voire même de la spiritualité. Ces personnes que, quand on rentre dans ces domaines-là, on aurait envie de pouvoir croiser une fois dans sa vie. Mais moi, j'ai eu la chance que la vie m'a fait croiser leur chemin, et moi, je vais vous parler d'elles. Mais non seulement je vais vous parler d'elles, je vais aussi vous dire qui sont-elles et comment éventuellement les contacter pour que vous puissiez vous aussi faire ce chemin de découverte. Mais avant de continuer, chers amis, permettez-moi de vous dire que le but de cette chaîne est de diffuser au plus grand nombre et gratuitement des clés et des pépites pour la transformation et la croissance personnelle. Nous croyons qu'il est possible de construire un monde meilleur et pour cela nous contribuons à éveiller la prise de conscience de l'immensité de notre potentiel, ceci en partageant des clés concrètes et applicable. Nous voulons ainsi apporter des contenus positifs, constructifs, pédagogiques, humains et responsables, servis avec pragmatisme et une approche pratique qui donne toute sa place au bon sens et à l'expérience vécue. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est de partager un comment pour vous permettre de faire et de passer à l'action concrète et pas juste de philosopher et de nourrir le mental. Car le moment est venu de réinventer notre humanité, et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire. Petite parenthèse publicitaire, cette chaîne de podcast fait partie d'un projet de contribution et de diffusion de plus grande ampleur pour aller au cœur de l'humain et de son potentiel. Ce projet s'appelle Conscious Media, le média pour une vie pro et perso en conscience. Une approche de divulgation à 360 degrés pour remettre un peu d'humanité et de conscience dans toutes les dimensions de notre vie. Et si, chemin faisant, cet épisode vous plaît, si cette chaîne de podcast vous plaît, si vous avez des commentaires à nous apporter, des critiques constructives, des suggestions, des histoires, des rajouts, bref, quoi qu'il en soit, mais aussi si vous avez envie de nous suggérer des thématiques pour de futurs épisodes, n'hésitez surtout pas à nous écrire à hello@conscious-media.com. Nous répondons à tous vos messages et sachez qu'avant tout et surtout, cette chaîne est la vôtre. Alors maintenant que nous avons fait le tour de l'introduction, qu'est-ce que la pleine conscience, ce cher monsieur Jon Kabat-Zinn, tout ce qu'il a apporté, l'évolution de ce courant de conscience du début du 21e siècle, qu'en est-il du stress et de la pleine conscience? Nous allons faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans le premier épisode de cette série de podcasts. Pour vous souvenir, c'est l'épisode 60. Arrêtons de subir le stress. Nous avons compris plus profondément de quoi il en advient quand il s'agit du stress. Bon, si l'on résume, le stress est une réponse à une menace. Maintenant, pour rester dans le contexte de ce que nous allons parler aujourd'hui. Quand nous avons une menace, il y a un influx de stress. Sauf que aujourd'hui, si vous vous rappelez bien de ce que nous avions raconté dans les épisodes antérieurs, alors que notre cerveau est préparé pour pouvoir encaisser l'équivalent de 5 influx de stress par jour, nous en subissons en moyenne, et je souligne parce qu'on parle d'une moyenne, ça veut dire qu'il y en a certains d'entre nous qui subissent beaucoup plus que 75 et d'autres qui subissent moins que 75. Mais le cerveau étant programmé pour n'en recevoir que 5, grosso modo, nous sommes tous dans des sales draps. Ainsi, on subit tellement d'influx de stress que l'on rentre dans un fonctionnement particulier au niveau de notre psychologie. Et le principal étant que nous vivons de projection. On a une telle cascade d'influx de stress, une telle cascade de menaces que notre cerveau s'est préparé à quoi ? À anticiper des menaces potentielles. Ainsi, on va passer notre journée à observer les menaces et les conséquences des menaces venant du passé, tout que on va passer notre temps à observer les menaces venant du futur. Ainsi, on passe toutes nos journées à ressasser les événements passés et leur éventuel effet sur notre présent et notre futur, tout comme on passe nos journées à imaginer, créer et recréer des futurs plausibles et futuribles pour essayer d'éviter que le ciel ne nous tombe sur la tête. Sauf que la pleine conscience nous apprend que les projections ne sont pas la réalité. Mais la neuroscience nous apprend aussi que le cerveau fait difficilement la différence entre ce qu'il visualise ou imagine et ce qu'il vit réellement. Du coup, plus vous mettez de cœur, plus vous mettez d'insistance, d'image en couleur, de dimension, plus vous mettez d'émotion dans vos visualisations et votre imagination des futuribles possibles menaces, plus votre cerveau va avoir l'impression de vraiment les vivre ici et maintenant. Oui, vous avez bien entendu. C'est que non seulement vous allez vous prendre dans les dents en moyenne 75 menaces par jour, et ça c'est la réalité du quotidien, non seulement ça, mais pendant que vous êtes tranquillement à la maison, vous broyez du noir dans votre tête pour vous infliger 75, 150 ou 350 autres. Ne vous étonnez pas que vous ayez la boule au ventre après. Du coup, ceci nous amène à découvrir l'une des plus grandes leçons de vie de mon existence. Et je la dois à un grand méditant bouddhiste du nom de Stephen Ford, qui, à l'époque, quand je l'ai rencontré, nous avions pris l'habitude de se voir une fois par semaine. Et nous mangions et nous échangions, et il m'aidait à comprendre ce que je vivais. Il me donnait des exercices, je découvrais la méditation en profondeur. Et un jour, il me dit, alors que moi je sortais d'un épisode de burn-out bien sévère, que je traînais mes baskets depuis plusieurs mois, que j'étais pas bien dans ma peau, que voilà, je traînais ma vie, mon être, tout ce qu'on peut traîner à l'issue d'un épisode de burn-out. Et là, on est à table, et il me dit, Iker, ici et maintenant, tes problèmes n'existent pas. Je répète, parce que ça m'a bien perturbé. Ici et maintenant, tes problèmes n'existent pas. Et là, moi, je suis allé voir mon petit coco et je lui dis, écoute Stéphane, je vais te raconter, moi, si mes problèmes n'existent pas. Et là, j'étais prêt à déballer mon arsenal de problèmes, papa, et lui en mettre plein les ratiches. Qu'à ce moment-là, Stéphane me dit, écoute Iker, j'entends que ta vie a été compliquée. J'entends qu'il y a plein de choses que tu dois observer, tu dois veiller au grain pour t'assurer que les choses se passeront bien. Mais ici et maintenant, tu as une assiette devant toi. Nous sommes à table, toi et moi, et soit le repas n'est pas bon, soit ta compagnie n'est pas bonne. Mais en dehors de cela, tout le reste de tes problèmes ne sont pas là, ici, avec nous. Ils sont dans ta tête, ils viennent du passé, où ils se projettent dans le futur. Et là, j'ai pris un énorme revers dans mes dents, parce qu'il me permettait de comprendre que 99,99 des problèmes que j'avais n'étaient que dans ma tête. Ils n'étaient pas présents. La seule chose qui était présente était mes peurs. Le reste n'était que du virtuel. Donc, aujourd'hui, grâce à la pleine conscience, nous allons comprendre ce qu'il en est de cultiver l'instant présent. Car je percute qu'on a fait une belle introduction sur la pleine conscience, mais on a oublié une chose principale et essentielle qui fait que l'exercice était raté au début de cet épisode, et c'est que nous n'avons pas défini la pleine conscience. Du coup, je vous prie de m'excuser pour cet oubli tonitruant. La pleine conscience pourrait être résumée en quelques mots, quatre mots. L'un des quatre n'est que un petit mot de liaison. La pleine conscience, c'est une attention à l'instant, à ce qui se passe ici et maintenant. Résumé des courses, la définition la plus concrète que l'on pourrait faire de la pleine conscience, c'est être ici et maintenant. Point. Avec ça, je vous ai tout dit. Vous pouvez raccrocher l'épisode, vous pouvez plier, vous pouvez rentrer chez vous. Rien que ça peut changer votre vie radicalement de A à Z. Comme tout dans ce chemin de développement personnel, intérieur et spirituel, plus c'est simple, plus c'est puissant et plus ça va loin. Eh bien, ces trois mots avec un mot de liaison, être ici et maintenant, et tout ce dont vous avez besoin de savoir. Pourtant, on pourrait en parler pendant 60 épisodes que l'on n'aurait pas fini. Du coup, de quoi s'agit-il réellement? Eh bien, il s'agit d'être présent au corps, à notre corps, notre véhicule, à nos ressentis, c'est-à-dire les langages de notre corps et de notre véhicule, la façon qu'il a, lui, de communiquer avec nous par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe à l'extérieur de nous. C'est une attention à l'instant aussi pour s'écouter soi, son être et son environnement grâce aux ressentis qui sont transmis par le corps. Et comment faites-vous ça? Eh bien, très simplement, la pleine conscience va très loin, mais dans tout ce qu'elle vous présente, c'est très simple, à travers l'observation. Il suffit de regarder. Vous observez ce qu'il se passe en vous et autour de vous, dans l'instant, dans le purement factuel. Voilà la pleine conscience. Alors, vous pourrez faire ça de façon formelle, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en tailleur sur un zafou, vous allez mettre une petite bougie, vous allez faire votre petit rituel de méditation et vous allez dire « là, je pratique la pleine conscience ». Ça, c'est la pratique formelle. Soit sinon, vous faites de la pratique informelle, c'est-à-dire que vous faites la vaisselle, vous cuisinez, vous faites la queue dans le supermarché, vous attendez le bus, le métro ou le retardataire du jour. Bref, à ces moments-là, vous profitez pour connecter avec tout ce qui se passe en vous et autour de vous dans l'instant présent. Et ça, c'est une pratique informelle. C'est quand on invite la pratique de la pleine conscience dans la vie de tous les jours. Et c'est là que ça devient réellement intéressant. Et pour tout ça, il y a un exercice clé, un exercice roi, dont on n'appréhende pas la profondeur et la puissance, de par son extrême simplicité. Et cet exercice, je vous le décrirai tout à l'heure. Et ça, c'est un teasing pour que vous restiez avec moi jusqu'au bout. Alors, grâce à la pleine conscience, cultivez l'instant présent. Alors, qu'allez-vous expérimenter dans ce cas-là? La première chose que vous cherchez à expérimenter, c'est le détachement. Dès le moment où vous êtes capable de vous observer, vous allez observer que quand vous êtes stressé, il y a du stress en vous. Mais avec le détachement du stress, vous allez vous rendre compte qu'il y a du stress dans votre corps, il y a une boule au ventre, il y a une sensation peut-être désagréable, j'ai des choses qui se nouent, une sorte d'énergie qui commence à circuler, qui n'est pas agréable dans le corps, dans l'émotion qui palpite, le mental qui s'emballe. Bref, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui se passent, c'est très mécanique. Vous identifiez des mécanismes qui vous permettent de dire que le stress est en vous, mais vous n'êtes pas le stress. Arrivé à un certain point de détachement, vous serez capable de dire que le stress est en vous, mais vous n'êtes pas stressé. Vous sentez tous les mécanismes se mettre en place, mais ils n'activent pas les déclics et les programmes. Et ça, c'est la chose suivante que vous allez être capable de voir. C'est que quand toutes ces réactions en chaîne mécanique se mettent en place dans votre corps, vous agissez d'une certaine façon. Il y a certains programmes qui se mettent en place. Et quand vous êtes capable d'identifier ça, vous vous regardez réagir avant d'agir. Et là est l'une des grandes clés. Parce que les mécanismes se mettent en place et ils vous disent « Vas-y, fais ci, vas-y, fais ça !» Et quand vous regardez, mais ça veut dire quoi, fais ci? Et là, vous regardez vos déclics. Et parfois, les programmes, et en fait, fais ci, je fais toujours ça chaque fois que je suis stressé. Et là, vous allez commencer à prendre conscience de l'univers qui se met en route chaque fois que vous êtes stressé. Mais pour la première fois de votre vie, vous ne le subissez plus. Vous devenez le pilote dans l'avion. Vous cultivez alors un certain détachement. Que l'on pourrait appeler, alors certains n'aimeront pas que je dise ça, une certaine zénitude. Une zénitude dans le stress. John Kabat-Zinn parle de « au cœur de la tourmente, la pleine conscience ». C'est-à-dire ce détachement, ce non-stress à l'intérieur de la tourmente de stress. Bien, une fois que vous êtes dans ce détachement-là, vous vivez pleinement la situation que vous êtes en train de vivre. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe. C'est pas un je m'en foutisme qui tourne le dos et qui oublie ce qui se passe. Non, au contraire, c'est une situation qui vous permet d'être pleinement présent à ce que vous vivez. Mais ce que vous vivez ne vous affecte plus comme avant. Et ça, c'est le pouvoir du détachement. Alors, quand vous avez appris à observer tout ça, que ce soit les mécanismes physiologiques du stress, que ce soit les mécanismes du cœur, c'est-à-dire les émotions, c'est une autre couche différente que vous apprenez à observer, ou que ce soit les mécanismes mentaux, c'est-à-dire les pensées, les pensées envahissantes, les pensées ruminantes, les vagabondages mentaux, quand vous apprenez à les observer aussi, avec ces trois choses-là, vous apprenez à vous détacher. Quand vous apprenez à vous détacher, vous prenez conscience que ces phénomènes sont passagers, parfois extrêmement fugaces, et que la seule chose qui fait qu'ils perdurent, c'est que vous les accrochez et vous les alimentez. C'est l'une des fameuses réactions au stress. Dès le moment où vous arrêtez de les alimenter, vous allez vous rendre compte, grâce à votre détachement, point numéro 2, que toutes ces choses-là sont très impermanentes. Vous prenez conscience de l'impermanence, de la durée extrêmement réduite de toutes ces choses-là, que ce soit des pensées, des émotions ou des sensations physiques, elles sont là pendant un moment et si vous ne les alimentez pas, elles mutent à une vitesse folle. Quand vous expérimentez l'impermanence d'une émotion, vous prenez conscience que vous n'êtes pas obligé de la subir à longueur de journée. Vous pouvez tout simplement la laisser passer. Elle est venue, elle s'est exprimée, elle a voulu alimenter des pensées que vous n'allez pas alimenter. Et là, elle repart et vous retrouvez un nouvel espace détaché. Ici, quand on parle d'impermanence, on va apprendre aussi à faire la grosse différence avec le gros fléau de notre temps, début du 21e siècle, merci Internet et les réseaux sociaux, l'immédiateté. Qui ne veut pas dire être ici et maintenant, qui veut dire je veux tout de suite et maintenant. Et ça, ça nous pourrit la vie de façon superlative. Donc, pour clôturer, l'impermanence vous permet aussi de relativiser, de détacher la notion d'immédiateté de votre vie. Ce qui vous réduit, pas vous réduit, ce qui vous emmène à un troisième point que vous allez expérimenter grâce à la pleine conscience. L'illusion. Car vous allez vous rendre compte que si 99,99% de vos problèmes sont des projections mentales, imaginaires, en réalité, vous ne faites que vous mentir. Vous ne faites que vous créer un monde dans lequel vous ne vivez pas. Et quand vous analysez avec détachement ce 99,99% des peurs, des projections que vous avez, quand vous vous retournez et que vous observez ce qui réellement s'est passé dans votre vie, vous prenez conscience aussi que 99,99% des projections que vous aviez faites ne se sont jamais produites. Donc c'est quand même ballot. Vous subissez en moyenne 75 influx de stress par jour, ça c'est la vie de tous les jours qu'on a décidé d'avoir, bon, ok, mais tout le reste que vous vous l'infligez pour rien. Pour rien, parce que ça ne se produira pas. Et là, vous découvrez l'illusion dans laquelle vous vivez. Une réalité dure à accepter parce que le monde dans lequel nous vivons est beaucoup moins rattaché à ce que nous vivons réellement qu'à ce que nous croyons que nous allons vivre réellement. Et ce sont deux mondes profondément, radicalement différents. Mais, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Parce que parfois, il est nécessaire de se projeter et d'anticiper. Parce que 99,99%, ça ne veut pas dire 100%. Donc il y a quand même un 0,1% de phénomènes que j'ai anticipés qui ont eu lieu. Si vous écoutiez ce que je vous dis, vous diriez « Mais on met tout à la poubelle, ça sert à rien !» Et soudainement, vous subissez le surlendemain un gros péquio, comme on dit au Pays Basque, qui en réalité, vous auriez pu anticiper et éviter. Et là, vous allez dire « Iker, il est gentil, mais si je vois, je vais lui en coller une, celui-là. » Du coup, ne jetons pas le bébé avec l'eau de bain. Il est parfois nécessaire de se projeter et d'anticiper. Mais ce que l'on apprend grâce à la pleine conscience, c'est que ce n'est pas un exercice permanent. Combien de personnes ai-je croisées qui me disent « Moi, je pense toujours au pire. Et comme ça, je suis sûr qu'il n'arrivera pas. » Bon, si l'on écoute les conclusions d'études scientifiques sérieuses sur la psychologie positive, ce mindset vous amène à vivre moins longtemps, moins heureux, avec des relations moins épanouissantes, en ayant moins de succès dans la vie, en ayant moins de chance dans la vie, ça va pas. Non seulement la psychologie positive nous dit que ça nous amène nulle part, mais ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que au lieu d'avoir ces programmes, parce qu'on a entendu plein, il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, je pense toujours au pire, et comme ça, je suis sûr de me prévaloir du pire. » Non, 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 non. Tu penses au pire au moment où tu décides de penser au pire. Ce sont deux choses très différentes. C'est que pour ce 0,1% de problèmes qui vont réellement avoir lieu, vous devez prendre rendez-vous avec vous-même. Et là, vous allez vous projeter, vous allez faire la part des choses, de façon à ce que cette approche qui est vertueuse, vous puissiez la mettre en place sans qu'elle vienne polluer l'ensemble de votre journée et vous accompagner d'une chape bien noire et de nuages obscurs de tourmente à longueur de journée. Car ce nuage de tourmente est fait en majorité d'illusions. Des choses qui n'auront jamais lieu. Du coup, la projection et l'anticipation pour éviter les déboires de la vie, vous pouvez le faire avec un exercice ponctuel, par conséquent formel. Vous prenez rendez-vous avec vous-même. Et là, vous étudiez, vous analysez, vous méditez. Vous décidez de façon consciente d'agir, de façon engagée, vers un exercice de projection. Ce qui vous évitera de réagir à tout moment de la journée à des exercices de projection tous azimuts que vous ne contrôlez plus. Ce qui nous amène à la quatrième expérimentation de la pleine conscience, qui est la puissance du jugement. Car, quand on est dans ce monde où je ne fais que passer toute ma journée à anticiper des problèmes, des difficultés, et ceci et cela, je vais me retrouver dans un monde de nuages sombres, la tourmente qui pète sur ma tête à longueur de journée, et il pleut, et il fait pas beau dans ma tête. Ce qui va inévitablement amener une perception tendue de mon monde. Si vous êtes dans une perception tendue de votre monde, ça veut dire que vous commencez la journée et vous passez la journée tendue comme une arbalète. Mais ça, c'est un programme dans lequel vous êtes. Si en plus, hélas, la vie va vous envoyer au minimum, en moyenne, 75 influx de stress par jour, la vie ne fait que confirmer que vous avez raison d'agir de la sorte. Du coup, cette tension que vous avez, au moindre coup, ça va partir. Parce que, quoi qu'il en advienne, vous serez toujours, toujours sous l'emprise des tensions sous-jacentes de cette perception tendue du monde. Et ce à quoi ça vous amène, c'est un jugement permanent de ce qui vous arrive. Et ce jugement permanent de ce qui vous arrive n'est qu'imaginaire. Car 99,99% de ce que vous allez imaginer ne se reproduira pas. Mais vous allez juger le monde et votre entourage avec ces questions-là. Du coup, vous savez ce que vous allez perdre ? La liberté. Car vous allez agir par la peur et pas par l'envie, pas par la créativité, pas par la projection et la croissance. Vous allez agir par la crainte de la menace. Alors vous allez vous protéger du monde plutôt que de l'embrasser. Parce que vous êtes tout le temps sous le couvert d'une menace potentielle. Mais quand vous voyez tous ces enquiquineurs dont vous voulez vous protéger, en fait, ils vous enferment à jamais dans une prison que vous-même vous avez construite. Alors, vraiment, quand vous regardez ces enquiquineurs dont vous voulez vous protéger, est-ce qu'ils méritent autant d'importance que d'arriver à vous enfermer volontairement et vous couper du monde, quand en réalité ce que vous voulez, ce serait de vous couper de eux? De crainte que ces enquiquineurs vous atteignent, vous vous isolez du monde, de votre monde, de ses promesses, de vos potentiels et de ses potentiels. Et tout ça à cause du jugement. Et à la fin de ce parcours-là, 1 de détachement, 2 d'impermanence, 3 d'illusion, 4 de jugement, vous allez découvrir le plus beau cadeau de ce parcours de la pleine conscience, quand vous commencez à vous détacher du stress, vous allez découvrir votre qualité de présence. Vous allez à ce moment-là découvrir que, ici et maintenant, à tout moment, quels que soient les aléas de la vie que vous vivez ou que vous subissez, à tout moment, vous êtes sérénité, vous êtes joie et vous êtes amour. Et la qualité de présence, quand vous la découvrez dans cet espace de détachement, quand vous arrivez à créer de l'espace avec les événements intérieurs et extérieurs, vous vous rendez compte que de l'endroit duquel vous êtes en train d'observer toutes ces choses-là, c'est un endroit qui est toujours serein, qui est toujours joyeux et qui est toujours en amour de la vie. Et ces clés-là sont la porte d'accès à une multiplicité gigantesque cime de potentiels qui sont à votre portée à tout moment, ici et maintenant, à tous ceux qui veuillent et celles qui veuillent se donner le droit de les découvrir. Et pour arriver à ce point-là, il suffit juste d'observer ce qui se passe en vous et autour de vous. Mais si vous voulez aller plus loin et mieux comprendre cette notion de qualité de présence, je vous invite à écouter l'épisode 46 de cette chaîne de podcast. La qualité de présence se crée vers tous vos potentiels. Dans cet épisode-là, vous pourrez approfondir les questions que je viens de décrire et passer un bon moment de voyage pour affiner encore plus la compréhension de cet espace absolument extraordinaire qui est déjà en vous et qui peut s'activer à tout moment, sans beaucoup d'efforts, sans que ça coûte de l'argent et sans que ça dépende d'absolument personne. Alors, je vous invite à écouter l'épisode 46. Et si vous ne l'avez pas écouté, ça veut dire probablement que vous n'étiez pas abonné à la chaîne. Donc, abonnez-vous à cette chaîne parce que chaque semaine, nous publions des épisodes comme celui-ci sur plein de questions pour la croissance personnelle et l'éveil du potentiel. Si vous l'avez déjà fait, s'il vous plaît, contribuez avec nous dans notre effort de divulgation. Ce sera votre part de colibri. Mettez une note sur Apple Podcast ou sur Spotify et un commentaire. Plus les notes seront positives et plus nous aurons d'étoiles et plus les plateformes d'hébergement promouvront notre chaîne auprès de larges audiences et nous aurons ainsi l'opportunité de toucher de plus en plus de monde. Mais ensuite, si vous voulez faire une autre part du colibri, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de développer notre chaîne, c'est cette divulgation par le bouche à oreille. C'est la plus lente. Mais c'est la plus sûre. Et en plus, les meilleures fêtes se font toujours entre amis. Maintenant, sans passer trop de temps, je vous ai dit que Jon Kabat-Zinn était à l'avant-garde de dizaines et de dizaines d'années d'études scientifiques approfondies sur les avantages de la pleine conscience. Il en existe aujourd'hui des milliers, des milliers, des milliers. Les grands avantages de tout ça, à part l'approche expérientielle que je vous viens de vous donner dans cet épisode, vous allez vous retrouver en plus, forcément, on parle de ça, d'une réduction du stress grâce à cette conscience accrue du moment présent. Mais vous allez en plus améliorer votre santé mentale avec moins d'anxiété, éloignement de la dépression, meilleure gestion des troubles de stress post-traumatique si vous en avez, avec une bien meilleure régulation des émotions, beaucoup plus de résilience, diminution radicale des ruminements mentaux, etc., etc., etc. Donc, la santé mentale s'améliore. Ensuite, vous allez augmenter vos capacités cognitives. Donc, là, concentration, dont la mémoire, dont l'apprentissage, la créativité, etc., etc. Mais en plus, vous allez aussi réduire les comportements impulsifs. Eh bien oui, parce que vous vous observez réagir avant d'agir. Du coup, fini les impulsions sans réfléchir que vous regrettez après. Nous avons aussi cet avantage non négligeable. Mais aussi, vous allez améliorer la qualité de votre sommeil. Vous pourrez calmer votre esprit, finir avec l'agitation, l'anxiété qui vous perturbe en pleine nuit, qui vous réveille à regarder le plafond. Et en plus, la qualité du sommeil sera beaucoup plus profonde et meilleure. Et le sommeil, donc, sera plus réparateur. En plus, comme vous prendrez l'habitude de pratiquer de façon formelle des exercices de pleine conscience, sachez que 20 minutes de pratique méditative de pleine conscience qualitative, équivalent à 2 heures de sommeil. Oui, une pratique méditative qualitative est une pratique méditative profonde. Une méditation profonde de 20 minutes équivaut à 2 heures de sommeil. Donc, petite recommandation soit-elle faite ici au passage, aussi contre-intuitive que cela ne puisse paraître, plutôt que de vous presser le citron jusqu'à la dernière seconde quand vous êtes en train de dormir. Ah, je dois me lever. Ah, j'ai pas envie. Allez, 5 minutes de plus. Au lieu de presser le citron parce que vous manquez de sommeil, c'est contre-intuitif. Réveillez-vous 20-30 minutes avant. Surtout les nuits qui vont être très courtes. Vous vous couchez à minuit, vous devez vous lever à 4h du matin. Vous dites, je vais être crevé. Mais levez-vous à 3h30. Et là, vous dites, mais t'es fou, quoi. Non. Tu te lèves à 3h30. Là, tu prends ton oreiller, tu le plies, tu t'assois dessus, tu te mets en méditation pour les 30 minutes qui restent. Comme tu viens de dormir, la méditation va être profonde. Et comme elle va être profonde, les 30 minutes de méditation que tu vas faire équivaudront à 2 heures du sommeil. Donc tu auras dormi de minuit à 3h30, au lieu de dormir 3h30, en une demi-heure, tu auras fait plus de 2 heures de sommeil. Ça fera une nuit de 5 heures, presque 6 heures. C'est pas encore suffisant, mais c'est largement mieux qu'une petite nuit et une bonne an, mal an de 4 heures. La même chose est valable quand vous vous réveillez et que vous sentez encore de la fatigue au réveil. Vous vous faites 20 minutes de méditation et vous verrez que vous recommencerez la journée de façon beaucoup plus engagée. Mais il reste encore des avantages. Tout ce que je vous dis là, tous ces avantages, hein, je n'ai pas besoin de le dire, je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même, sont prouvés par maintes études scientifiques. C'est pas juste des promesses en l'air. Mais pour finir, et je finis avec ça parce que ce sera l'épisode suivant, il y a une amélioration des relations interpersonnelles. Et dans l'épisode suivant de cette série destinée à mieux comprendre le stress pour lui faire la peau, nous allons parler de stress et de relations. C'est-à-dire que on va aller au-delà du stress pour des relations épanouissantes. Car on le sait aujourd'hui, preuve scientifique à l'appui, que la pleine conscience nous aide à faire ça aussi. Ainsi, maintenant est venu le moment de passer à l'action concrète, concrète, concrète. Du coup, pour commencer, je vous ai dit qu'il y avait un exercice roi. Le grand exercice pour s'initier à la pleine conscience. Eh bien, celui-ci n'est ni plus ni moins que le scan corporel. Oui. On va vous donner plein d'exercices différents pour cultiver la pleine conscience, etc., etc. Mais à la fin du compte, l'exercice roi est le scan corporel que vous avez appliqué à différents niveaux. D'abord, vous allez apprendre à observer le corps de façon assez directe, les ressentis du corps, etc. Là, vous allez apprendre les langages du corps. Une fois que vous aurez appris les langages du corps les plus basiques, vous allez passer au niveau suivant. Vous allez observer les émotions. C'est un autre des langages du corps, beaucoup plus fin, plus subtil. Une grosse émotion, on peut la sentir assez facilement. Mais la différence entre « je sens mon orteil » et une émotion, c'est que mon orteil ne bouge pas. Mon orteil, je le sens, il est toujours au même endroit. Une émotion, elle, elle se promène dans le corps. Elle se réveille avec un ressenti et ce ressenti évolue. Par exemple, quand vous sentez que vous avez la moutarde qui monte au nez, tac, vous avez une petite pointe qui va, on va dire, imaginez, elle se pose, tac, au niveau du plexus, vous sentez, tic, une petite pointe. Ah, j'ai une pointe de colère. Là, il va me mettre en colère s'il continue comme ça. Et cette petite pointe, elle monte, d'ailleurs en effet il vous met en colère ce bonhomme, et là ça monte, et vous sentez une sorte de pression dans la cage thoracique, comme si le diaphragme se contractait. Ça veut dire que la colère commence à monter. L'autre il continue, il ne cesse pas, et là vous sentez que le cœur commence à s'emballer, boum 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 boum. Et apparaît, comme l'autre il continue, il n'arrête pas, le cœur qui s'emballe, ça commence à monter vers la gorge, là, boum, boum, boum. Vous sentez que ça palpite dans la gorge. Et là, vous vous connaissez, quand ça palpite dans la gorge, après, ça va venir taper dans les tempes. Et une fois que ça tape dans les tempes, l'étape suivante, soit je lui mets le soufflon du siècle, soit sinon, il repart avec une tarte entre les deux oreilles. Vous connaissez tout ça. Alors, c'est peut-être pas exactement le même processus, mais vous avez vu que, dans l'exemple que j'ai donné, ça a commencé par un petit truc au niveau du plexus et ça a fini par les tempes qui boum, 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 boum. Ok? Bref, ça veut dire que c'est beaucoup plus subtil dans l'observation de l'émotion parce que ce n'est plus comme l'orteil qui ne bouge pas. L'émotion, elle bouge dans le corps. Elle évolue. Elle a une réalité différente à différents moments de l'interaction. Troisième point. Troisième niveau de scan corporel, vous allez observer les pensées. Les pensées, c'est encore plus subtil que les émotions. Les pensées, elles bougent, mais elles bougent dans un espace extrêmement éthéré. Pourtant, ce sont des ressentis, les pensées. Et quand elles bougent, elles se déplacent dans notre esprit, elles vont d'un endroit à un autre, elles naissent quelque part, elles nous traversent d'une certaine façon, elles disparaissent d'une autre façon. Mais quand vous poussez encore plus loin, vous vous rendez compte qu'il y a différentes voies, V-O-I-X, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre mental. Il n'y a pas que juste la voie du mental et des pensées. Il y a d'autres couches sous-jacentes. Par exemple, l'intuition. Les idées se présentent-elles de la même façon que ces pensées envahissantes et le hamster mental qui n'arrête pas de tourner? Non. Eh bien, vous avez déjà là trois différentes voies, V-O-I-X, que quand vous apprenez à les observer, vous découvrez différentes voies, V-O-I-E-S, pour pouvoir atteindre ces différents espaces au fond de vous. Et tout ça, et encore plus, grâce au scan corporelle. Mais, si vous voulez aller encore plus loin, cette chaîne, elle est bien faite. Ça commence à faire maintenant plus de 60 épisodes 100% gratuits que nous traitons en profondeur, en moyenne plus d'une heure par épisode pour chaque thématique. Eh bien, l'épisode 54 est destiné unique et exclusivement au scan corporel et les secrets, ses secrets pour éveiller votre potentiel. Donc, même laïus que tout à l'heure, si vous l'avez raté, c'est que vous n'étiez pas abonné. Si vous n'étiez pas abonné, abonnez-vous. Tous les dimanches, un nouvel épisode que vous ne raterez plus. Et s'il vous plaît, pour faire votre petite part du colibri, mettez-nous une note et des commentaires. Plus on a d'étoiles et plus on a de commentaires positifs, et plus cette chaîne sera promue auprès de larges audiences. Mais la plus belle de toutes les audiences est celle qui vous entoure. Parlez-en autour de vous. Du coup, je ferme la parenthèse promotionnelle de la chaîne de podcast. Et je reviens à l'exercice roi, parce que son but, maintenant que je vous ai décrit comment vous allez l'utiliser, son but c'est de créer de l'espace entre vous et ce que vous observez. C'est le début du détachement. Vous allez observer les sensations physiques, les émotions, les pensées. Et vous allez prendre du recul comme si vous étiez spectateur ou spectatrice du théâtre intérieur. Ainsi, vous allez vous détacher et commencez à découvrir qu'entre ce que vous observez et vous, il s'est créé de l'espace. Quand il se crée de l'espace, vous êtes capable de ressentir qu'il y a des sensations en vous, il y a des émotions en vous, il y a des pensées en vous, mais vous n'êtes aucune de ces choses-là de là où vous êtes. Elles sont à l'intérieur de vous, mais vous êtes détaché. Et quand vous êtes détaché, suffisamment détaché, qu'il y a suffisamment d'espace entre vous et ce que vous observez, vous pourrez vous poser cette question. Si j'ai du stress à l'intérieur de moi, si j'ai des émotions à l'intérieur de moi, si j'ai des pensées à l'intérieur de moi, mais que rien de tout ça n'est moi, que suis-je? Et comment suis-je de là où j'observe? Et là, vous allez non seulement découvrir la qualité de présence, mais aussi ces trois essences essentielles, excusez-moi la redondance, sérénité, joie et amour. Maintenant, vous avez aimé tout ce que je vous ai raconté. Vous voulez aller plus loin? Eh bien, pour commencer, je vais vous inviter à écouter la série « Cultiver le bonheur » de cette même chaîne de podcast. C'était ni plus ni moins que les tout premiers épisodes de notre chaîne. L'épisode 2, l'épisode 3 et l'épisode 4 que j'avais enregistré à l'époque à l'occasion de la Journée internationale du bonheur. Cultiver le bonheur et faire la peau aux pensées négatives, ça c'est l'observation des pensées. Épisode 3, cultiver le bonheur, au revoir les émotions négatives, ça c'est l'observation des émotions. Épisode 4, cultiver le bonheur et s'occuper enfin d'un corps meurtri, ça c'est l'observation du corps. Je ne vais pas vous faire le même topo que tout à l'heure, abonnez-vous, laissez-nous une petite note sur Apple Podcasts et Spotify et parlez-en autour de vous. Bref, plein d'épisodes à venir pour aller au cœur de l'humain et de son potentiel. Après, une fois que vous avez écouté tous les épisodes que je vous ai recommandés aujourd'hui, vous allez devenir un véritable ninja de la pleine conscience, de l'attention et de l'éveil de conscience. Et l'éveil du potentiel, pardon. Mais de conscience aussi. Bref, après que vous avez fait ça, vous pouvez découvrir Conscious Media. KONXUS-media.com où nous avons déjà publié un premier article sur l'attention, écrit ni plus ni moins que par Stéphane Faure, dont je vous ai déjà parlé et dont je vous parlerai dans quelques minutes, et dont le titre est « Attention à l'attention ». Mais vous voulez aller encore plus loin, vous avez écouté les épisodes, vous êtes allé découvrir Conscious Media, vous voulez continuer, vous voulez éveiller votre potentiel. Eh bien, grâce à la pleine conscience, vous pouvez aller au-delà de la pleine conscience. Car quand vous découvrez votre qualité de présence, vous allez découvrir qu'il s'agit des starting blocks d'accès à toute une bibliothèque de potentiel. Certains déjà activés, d'autres à activer. Mais quand vous êtes capable de créer de l'espace entre vous et ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous avez la clarté d'esprit pour aller chercher les ressources dont vous avez besoin. Ça, c'est d'une. Ce sont les potentiels déjà actifs. Mais si vous creusez un peu plus l'observation, vous allez pouvoir découvrir qu'il y a plein de ressources à l'intérieur de vous que vous pouvez aussi éveiller et développer. Et donc, grâce à cette qualité de présence, vous allez pouvoir les découvrir. Du coup, la qualité de présence est le point de départ de l'éveil du potentiel. Une observation qui mène à une découverte et à une compréhension. Mais ce n'est pas tout. Parce que la pleine conscience est aussi une porte d'entrée vers une spiritualité laïque et connectée. Une approche qui passe par le corps et qui vous invite à constater qu'au-delà du stress, au-delà de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, il y a un lien, il y a un quelque chose, il y a une connexion au vivant qui vous dépasse. Et ça, ce questionnement est déjà une porte d'entrée vers la spiritualité. Mais tout ça, c'est super. Je suis allé plus loin, j'ai envie d'aller plus loin, mais maintenant, comment je vais pratiquer? Eh bien, si vous voulez découvrir la pleine conscience, ce que vous allez faire d'abord, vous pouvez commencer par des applications. C'est la chose la plus simple, la plus rapide, ça coûte pas cher. La plupart des méditations basiques de pleine conscience sont de toute façon gratuites dans ces applications-là, dont les trois les plus connues sont Calm, C-A-L-M, Petit Bambou, et une troisième un peu moins connue mais développée par les neuroscientifiques de Stanford qui s'appelle Reverie, R-E-V-E-R-I. Je répète, R-E-V-E-R-I. J'ai cafouillé, donc je répète. Du coup, vous avez là trois applications. Beaucoup de méditations gratuites au sein de ces applications-là. Si vous payez votre abonnement, vous aurez accès à beaucoup plus de méditations. C'est une très bonne façon, très simple, de vous initier à la pleine conscience. Par contre, il y a beaucoup de choses que vous pourrez découvrir à l'intérieur de vous si vous êtes accompagné. Il y a beaucoup de choses qui vous passeront sous le nez sans être perçues si vous ne faites que des méditations guidées. Ainsi, moi, ce que je vous conseille très vivement, c'est de vous faire un stage de méditation de pleine conscience. Les plus recommandés aujourd'hui, les stages MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Pourquoi ? Parce que c'est la méthode développée par Jon Kabat-Zinn qui aujourd'hui fait recette dans le monde entier. J'ai été moi-même formé à la méthode MBSR en tant que professeur de méditation. C'est une méthode qui est bien étudiée, bien développée, bien approfondie, bien étudiée, avec des bases scientifiques solides et qui marche très bien. À côté de ça, vous avez plein d'autres possibilités de découvrir la pleine conscience. Il n'y a pas que celle-là. Mais parce qu'il y a une base scientifique bien construite, moi je vous conseille la MBSR. Mais il y en a d'autres. À côté de ça, dans les stages, après les stages, pardon, si vous avez envie de devenir un ninja ou une ninja de la pratique de la pleine conscience, découvrez les retraites de méditation, que ce soit des retraites vipassana ou d'autres types, vous allez avoir la possibilité de vous enfermer, je mets des guillemets, à méditer pendant plusieurs jours, non-stop, pendant plusieurs heures, en étant accompagné, et ceci va vous ouvrir des portes qui sont impossibles à ouvrir si vous pratiquez 10-15 minutes par jour. Donc un exercice très méconnu il y a quelques années, mais qui devient de plus en plus à la mode, de par ses vertus, je vous invite alors, si vous voulez aller encore plus loin dans la découverte, à faire des retraites. Maintenant, vient le moment de vous dire « Attention, chers amis, attention !» Parce qu'aujourd'hui, vous levez un petit caillou et il y a un enseignant de pleine conscience, tararing, des coachs, des trucs, tout ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce que ça a été très à la mode. Et parce que ça a été très à la mode, eh bien, c'était une manne de bénéfices à faire. Quand c'est à la mode, les gens veulent, donc les gens consomment. Si les gens consomment, c'est qu'il y a de l'argent à faire. S'il y a de l'argent à faire, on va mettre le nez dedans. Quand on met le nez dedans, on se rend compte que non seulement les exercices sont super simples, ils sont faciles à prendre, ils sont faciles à transmettre. Ah ! Résultat des courses, tout et n'importe qui s'est fourré dans le créneau de la pleine conscience. Parce que ça faisait recette et qu'il pensait au premier abord qu'il fallait pas avoir de grandes compétences pour pouvoir le transmettre. Oh, grosse erreur monumentale. Il est nécessaire d'avoir une pratique approfondie, de longue durée, d'avoir des compétences élargies en psychologie, en développement personnel, en éveil du potentiel et en éveil spirituel pour être un enseignant de méditation en pleine conscience. Parce que Quand vous vous engagez dans ces chemins-là, au début, vous allez faire des trucs tout gentillés. « Oh, je sens pas mes pieds. Oh, je sentis soudainement que j'avais mal au dos. Oh, c'est ballot !» Et après, vous allez découvrir. Ça va être très enfantin au début, les découvertes. Et un jour, soudainement, il y a une porte qui va s'ouvrir. Et là, vous ne saurez plus quoi faire avec. Soit c'est une porte émotionnelle qui était enfouie et soudainement, vous vous faites submerger par une émotion. Et vous savez pas comment faire. Et vous craignez, c'est quoi cette émotion? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Soit sinon, soudainement, vous allez avoir une évocation qui va vous exploser à la figure. Quelque chose qui va vous venir, dont vous ne vous entendiez pas. Et qui soudainement va vous impressionner. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Tout ça, c'est des choses complètement bénignes, normales dans une pratique. Absolument normales. Et qu'un bon enseignement pourra vous dire, t'inquiète, ça correspond à ça, à ça, à ça. Il n'y a rien à craindre. On est en train de ça. L'enseignement pourra même anticiper ces situations-là. De façon à te dire, tu sais, quand tu pratiques ça, il pourrait se passer ce genre de phénomène. Dis-toi que c'est normal. Et comme ça, le jour où ça t'arrive, ben, tu sais que c'est normal, on t'a déjà prévenu. Ou, si on t'avait pas prévenu, la personne peut te dire, non, non, t'inquiète pas, c'est normal. Il s'est passé ça, mais il va se passer ensuite ça, ça, ça et ça. Tu peux continuer à pratiquer. Rien que ça te tranquillise. Mais parfois, il faut avoir des compétences plus approfondies parce que la personne doit être capable de pouvoir accueillir ce qui vient de sortir. Et le petit opportuniste qui s'est pointé pour faire des sous sur le dos de la pleine conscience, qui ne pratique pas la méditation, qui se contente juste de régurgiter des exercices qu'il a découvert à la va-vite, il ne saura pas réagir face à cette situation-là. Et vous vous retrouverez comment ? Tout seul, toute seule, avec vos questions, vos doutes, peut-être éventuellement vos craintes et l'incapacité d'aller plus loin. Donc, attention à faire le bon choix d'enseignant de pleine conscience. Donc, que ce soit un enseignant MBSR, c'est déjà une valeur ajoutée. Mais, hélas, hélas, ça ne veut pas tout dire. Vous avez aussi de tout au sein des enseignants de MBSR. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord questionner la personne sur les années de pratique et l'intensité de la pratique. Par intensité, j'entends la quantité de retraites méditatives que cette personne a eu fait dans sa carrière d'enseignant. La dernière, à quand date-t-elle? Ensuite, avec quelle intensité pratique-t-il au quotidien, ou elle, et depuis combien de temps? Demandez aussi quelles sont les références des personnes qui les ont enseignées. Où sont-ils allés se former? Avec qui? Ensuite, quelle est leur culture de pratique méditative et quelle est leur culture d'accès à la retraite? Est-ce que ce sont des pratiquants, enseignants, qui font des retraites, régulièrement chaque année pour approfondir leurs compétences? Et avec qui font-ils ces retraites-là? Ensuite, je parlais de compétences élargies. Donc, posez des questions. Avez-vous des compétences de base en psychologie, en développement personnel, en éveil du potentiel et en éveil spirituel? Quelles sont-elles? Et ensuite, pour finir, demandez à cette personne-là, OK, quel est le cadre sécurisant que vous mettez en place de façon à m'accompagner dans l'ouverture à mon éveil individuel, qu'il soit émotionnel, mental, spirituel ou tout simplement physique? Quel est le cadre que vous mettez en place pour que je me sente en totale sécurité si, à un moment donné, j'accède à des parts reculées de moi-même que je ne sais pas gérer ou accueillir? Une fois que vous avez définis tout ça avec la personne et que vous vous sentez à l'aise, vous savez que vous êtes entre de bonnes mains. Et c'est avec ça maintenant que je vais maintenant conclure cet épisode. Le best-of du best-of. Car je vous ai dit que moi, à une époque, j'ai fait un gros burn-out bien cochon qui m'a mis au fond du trou. Et à ce moment-là, la vie a fait en sorte de me mettre sur le chemin de Stéphane Faure, dont je vous ai déjà parlé. Stéphane Faure m'a présenté à toute une série de ses amis, dont, entre autres, Stéphane Offort. Le premier, c'est Faure, F-A-U-R-E, et l'autre, c'est Offort, O-2-F-O-R-T. Et tous les deux ont la caractéristique d'être des grands méditants bouddhistes. C'est-à-dire qu'ils ont passé des années, et des années, et des années, enfermés à méditer. À l'époque, on appelait ça des moines anachorètes, mais c'est la version moderne la plus proche qu'il existe du moine anachorète. Le moine anachorète étant celui qui, à l'époque, jadis, s'enfermait dans une grotte et passait 30 ans de sa vie à regarder pousser les stalagmites. Eh bien, nous sommes là dans ce type de personnes-là. Stéphane Faure et Stéphane Hofort ont fait ce qu'on appelle des retraites de longue durée bouddhistes. Donc, dans le cadre de la pratique bouddhiste, une retraite de longue durée, c'est une retraite de 3 ans, 3 mois et 3 jours. Et ça, c'est une retraite. Et certains grands méditants en font 2, 3, voire 4, voire 5 retraites d'affilée. Parfois en tant que retraitant, parfois en tant qu'accompagnateur de retraitants. Mais ils passent des années et des années et des années à méditer. Ce qui fait un cumul à leur actif de 9, 12, 15, 18, voire 21 ou 25 ou plus, 24, non, je me suis perdu maintenant dans les cumuls. On s'en fout. Bref, ça fait des décennies potentielles de retraite méditative. Et ces personnes-là sont très rares à trouver. Elles existent, mais la plupart d'entre elles, elles vouent leur temps à une pratique personnelle et beaucoup moins à une transmission. Et quand elles vouent leur temps à une transmission, souvent, elles réduisent cette transmission à l'intérieur de leur communauté bouddhiste. Ce n'est pas le cas de Stéphane Faure et de Stéphane Hofort, qui aujourd'hui transmettent leurs compétences à un public laïque. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont appris de toutes ces années-là, ils vont le transmettre à des personnes de leur environnement en dénudant leur enseignement de tout enseignement philosophique bouddhiste. Mais, comme ce sont des ninjas parmi les ninjas, ce sont des maîtres ninjas, ils travaillent aussi avec pléthore de spécialistes dans les CHU diverses, de divers hôpitaux, avec des neuroscientifiques, etc., etc. Mais comme ce sont des bouddhistes qui font leur bout de chemin de contribution et ils parlent pas réellement d'eux. Et là, je vous livre une pépite monumentale. Ces deux personnes sont accessibles. Donc, Stéphane Faure, F-A-U-R-E. Vous allez le retrouver chez eutimia.fr, E-U-T-H-Y-M-I-A.fr ou .com. Peut-être que je me trompe dans l'un ou l'autre. Et Stéphane Faure, vous le retrouverez aussi au sein d'Eutimia, mais lui aussi a des activités en nom propre. Ils ont un programme qui s'appelle Opal, qui vous mettra la tête à l'envers tellement il est extraordinairement bien fait. Il touche à la neuroscience, à la pleine conscience, à la spiritualité. C'est quelque chose de vraiment puissant. Je vous raconte tout ça et vous allez dire, Iker, ça fait déjà plusieurs minutes qu'il nous parle de ces ozos-là. Il doit y avoir un intérêt ou quelque chose. Eh bien non, il n'y en a pas. Mais quand je vous dis qu'il faut faire attention avec qui vous travaillez et qu'il y a deux trésors comme celui-là qui existent en francophonie, en particulier en France, parce qu'ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques en présentiel, mais aussi en digital. Mais ça reste des moines bouddhistes ou des anciens moines bouddhistes, parce que Stéphane Faure est un ancien moine bouddhiste et Stéphane Hofort est un pratiquant qui n'a jamais été moine. Il a pratiqué comme les moines au sein des communautés de moines, mais il n'est pas moine. Bref, quand il existe ces personnes-là, il est nécessaire de savoir qu'elles sont là à vous porter. Moi, ça a changé ma vie. Et donc, plutôt que de vous faire de la publicité pour vous vendre un cours de méditation, chose que je pourrais parfaitement faire, je vais vous dire, moi, j'ai appris de ces hommes-là. J'aurais encore des années-lumière à apprendre encore de ces hommes-là. Vous les avez à portée de main. Vous allez les retrouver. Et quand vous les appelez, s'il vous plaît, dites-leur bonjour de ma part. C'est la seule chose que vous avez à faire. Je n'ai aucun lien d'affiliation ni d'intérêt commercial dans ce que je vous raconte maintenant. Mais ces hommes-là, ce sont des mutants de la méditation, des maîtres ninjas où il en existe et vous ne regretterez jamais d'avoir croisé leur chemin. Merci beaucoup d'être resté avec moi pour un nouvel épisode de cette chaîne de podcast où nous avons parlé cette fois-ci de stress et de pleine conscience. Nous avons découvert ce qu'était que la pleine conscience, ce que est que la pleine conscience, ses origines et comment est-elle devenue le courant d'éveil de conscience et de développement personnel du début du XXe siècle. Il a été question de stress, évidemment, et de pleine conscience, mais aussi comment la pleine conscience nous permet de cultiver l'instant présent et de faire la peau au stress. Il a été ensuite question, grâce aux études scientifiques, de découvrir tous les grands avantages que nous amène la pratique de la pleine conscience au-delà de la gestion du stress. Ce qui nous amenait ensuite à nous occuper de l'exercice roi, le grand exercice qui vous amènera vraiment découvrir en profondeur tous les langages du corps. Et si vous vouliez aller plus loin, nous avons discuté de la quantité d'options qui se présentent à vous entre écouter des épisodes de notre chaîne, découvrir consciousmedia.com ou aller éveiller votre potentiel de façon superlative. Et après, vous pouvez découvrir la pleine conscience de mille façons différentes et avec les personnes qui ont le plus influencé notre vie de méditant. Je suis Keragir et ceci est votre chaîne de podcast Une alchimie de l'éveil. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre une note sur Apple Podcasts et sur Spotify accompagnée d'un commentaire positif pour que cette chaîne soit promue auprès de plus larges audiences et le meilleur de tout, à en parler autour de vous. Car les meilleures fêtes sont toujours entre amis.